إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، نحن لازلنا في سلسلة الصيام بحول الله. On est toujours dans la série donc de jeûne de Siyam. On avait parlé la semaine passée sur ceux-là qui doivent jeûner, qu'obligatoire. On a cité quelques-uns. On va peut-être revenir un peu en arrière pour que ça soit complet dans l'enregistrement, inshallah, biznillah. Idhan, kunna tkallamna l'usbou' al-madi ala ba'd al-nas li katjib alayhom wajib alayhom siyam w minhom li ma katkunchi wajib alayhom. ومنهم ذكرنا الكافر والمجنون. On avait cité les gens que ce n'est pas ils ne doivent pas jeûner ou ce n'est pas obligatoire sur certains, c'est-à-dire on a cité le mécréant. Le mécréant, on a dit, est-ce qu'il est il doit jeûner? Non, il est obligé de jeûner, oui, mais il ne peut pas jeûner parce qu'il n'est pas musulman. Il sera jugé le jour du jugement sur le jeûne, kadhalik, sur le siyam et le salat, mais il ne peut pas. On ne peut pas dire à un kafir, tu dois jeûner. On doit à un kafir qui est obligé de jeûner, mais pour jeûner, tu dois devenir musulman. Alors, parmi ceux-là aussi, qui ce n'est pas obligatoire de jeûner ou ils ne doivent pas jeûner, al-majnoun, celui qui a perdu raison. Alors, on a cité al-majnoun, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, le dalil de ça, an Ali radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal rufi' al-qalam ala thalathatin an an-na'im hatta yastayqid wa an as-sabih hatta yahtalim wa an al-majnun hatta ya'qil aw ya'qil. Alors ici dans le hadith qu'on a cité maintenant qu'il a rapporté Cheikh Al-Uthaymin, an Ali radiyallahu anhu, il dit trois gens, trois personnes que rufi' anhum al-qalam. Rufi' anhum al-qalam, c'est-à-dire que les anges n'inscrivent pas leurs actions. إذن ثلاثة اللي رفع عليهم الله عز وجل القلم، أي ما كتبش في الكتاب ديالهم المعاصي أو شيء من هذا. ومنهم النائم حتى يستيقظ، كلكان كي دور لي زونج نسكريف با سو كي سباس دون سون سوميه. وكذلك الصبي حتى يحتلم، وفوار ابري الصبي سيتادير لو غارسون جيسكي دوفيان ادولت. Et ça, on a cité le mot yahtalim, on va l'expliquer par après. Yahtalim, c'est quelqu'un qui rêve la nuit quand il dort et qu'il a rêvé d'avoir des rapports. À la fin, le matin, il voit les traces donc de sperme. Un jeune homme qui rêve et qu'il voit les traces de sperme, c'est-à-dire qu'il est adulte, il doit commencer à jeûner. Mais il n'y a pas que ça comme remarque, il y a des autres signes aussi pour qu'il devienne adulte. Wa anil majnun hatta ya'qal ou ya'qila. Ici, on voit bien que le hadith dit « Wal majnoun », c'est celui qui a perdu raison, hein, qu'il a pas la... c'est-à-dire il a perdu la mémoire, ou il ne se rappelle pas, ou il est fou. Celui-là aussi, il n'est pas obligé de jeûner, et les anges n'inscrivent pas ses actions. « Idhan hanaya, had al-hadith dalil annahu tlata li minhum al-majnoun, rufi' anhum al-qalam, wa huwa, yani, al-na'im hatta yanud min nas, wa kadhalik al-sabi hatta يقول لي بالغ. وهنا الدليل أن المجنون حتى يعقل. المجنون اللي ما عندوش العقل ما كيكتبش عليه يعني الملائكة ما كيكتبوش عليه الأعمال دياله وما عليهش واجب أنه يصوم لأنه ما عندوش العقل، والله عز وجل والإسلام يخاطب العقل. وفي رواية رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله والعاقل ضد المجنون. الشيخ العثيمين يقول العاقل سي لو كونترير دو المجنون، celui qui a c'est-à-dire العقل qui réfléchit c'est qu'il a la raison et tout ça c'est le contraire de quelqu'un qui est fou. اي فاقد العقل من المجنون والمعتوه، فكل من ليس له عقل باي وصف من الاوصاف فانه ليس بمكلف. alors toute personne qui n'a pas العقل la raison c'est-à-dire qui n'a pas l'aql, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Donc, de n'importe quelle personne qui n'a pas l'aql, à ce moment-là, il ne doit pas jeûner. Et l'insan, ما عندوش العقل بحادثة أو شيء اللي غادي نشوفه الآن يعني ماشي واجب عليه صوم، لأن علاش ما عندوش العقل؟ ثم قال وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل صيام même il a il est pas obligé ni pour la prière ni pour le pèlerinage ni pour le sadaqat ni pour le sadaqat c'est-à-dire pas que ceux-là qui sont surrogatoires obligatoires oui il doit payer le zakat si un fou il a de l'argent il doit sortir le zakat quelqu'un d'autre il va faire sortir le zakat de son argent. Pourquoi? Parce que ça, c'est un droit qui appartient à quelqu'un d'autre. Le jeûne, c'est pour lui. La prière, c'est pour lui. Le pèlerinage, c'est pour lui. Mais le sadaqat de l'amwal, c'est quelqu'un d'autre qui lui doit de l'argent. Il doit remettre l'argent à celui qui doit cet argent. Wala it'am badal siyam. Admettons quelqu'un qui est malade, on dit quelqu'un qui est malade, il ne jeûne pas. S'il ne jeûne pas, quand il sera guéri, il doit jeûner les jours qu'il a mangé. Quelqu'un qui a une maladie inguérissable, tout le temps malade, il ne doit pas jeûner, mais il doit payer à la place de chaque jour qu'il mange un pauvre, c'est-à-dire de nourrir un pauvre. Mais quelqu'un qui est faux, il ne jeûne pas, est-ce qu'il doit payer chaque mois, chaque jour qu'il a mangé? Non. Celui-là, il n'a rien. Il ne paye pas, il ne jeûne pas. إذن هنا يا كذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنه المجنون فاقد العقل يعني لما صامش في ديك الوقت كان بسبب أنه كان حمق ما عندوش العقل فهذا الإنسان ما عليش أنه يخلص من كل نهار نهار اللي كلا فيه ما عليه ولو ما عليه لا صيام لا بدل أي لا يجب عليه شيء إطلاقا إلا ما استثني كالواجبات المالية صف كما ندي لزكاة الأموال وعليه فالمهذر أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل المهذر c'est-à-dire celui qui n'a pas العقل أنفو وهل مثل المهذر أو المهذر من أضل عقله بحادث alors quelqu'un qui a perdu raison à cause d'un accident فالواجب أنه إن كان كالمغمي عليه فإنه يلزم الصيام لأن المغمي عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه alors on peut dire qu'on a perdu la tête on a perdu raison pourquoi parce que l'été évanoui ok ou alors il est tombé dans un coma celui-là non celui-là dit qu'il revient à la raison il doit jeûner ces jours-là bien faire la différence quelqu'un qui a l'accident mais il n'a pas perdu raison il est tombé dans le combat ou il est évanoui celui-là c'est les dents le ramadan il doit rattraper ces jours-là فَيَقْضِهِ بَعْدَ صُحُوِي وَإِنْ وَصَلَ بِهِ فُقْدَ الْعَقْلِ إِلَى الْجُنُونَ par contre s'il a eu l'accident et après cet accident-là ce n'est pas qu'il est évanoui ou quoi que ce soit ou qu'il a perdu il ne savait pas pendant un jour il a perdu raison non c'est quelqu'un qui a eu un accident mais après il est devenu fou définitivement celui-là il ne doit pas jeûner il ne doit pas rattraper ces jours-là إذن هنا يا إنسان مثلا وقع له حادثة سيارة أو شيء طاح من هذا الشيء فيعني داخ أو كان في غيبوبة هذا إذا كان فقط في غيبوبة يعني مشى له العقل بعض الأيام هذا مني يرجع له العقل وكان في حالة الصيام هذا يرد هذا الأيام اللي كلا فيها لكن إذا كان السبب نتاع الحادثة طاح ولا في حادثة السيارة ومشى عقله تماما يعني ولا مجنون أحمق فهذا ما عليه حتى شي حاجة من كان يجن وكذلك قال الشيخ العثيمين ومعه شعوره فله حكم المجنون وكذلك من كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم وفي اليوم الذي يكون مع عقله يلزمه Alors, tu as certaines personnes qui deviennent fous, certains moments, et tout d'un coup, ils trouvent raison. Et c'est le Alors, du moment qu'il était fou, il n'y a pas à jeûner. Une fois qu'il jeûne, c'est quand sa raison revient. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم على ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل dalil qu'on a cité le faux jusqu'à sa raison, c'est-à-dire que les gens n'inscrivent pas parce qu'il a mangé, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'aql.
وفي رواية رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ.
Le faux jusqu'il il guérit. Autrement, s'il continue comme ça, il n'a pas à jeûner.
Alors, dans le hadith qu'on a cité maintenant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les gens qu'Allah n'inscrit pas leur péché ou leur action, c'est-à-dire ce qu'ils font, celui-là qui est dans le sommeil, il dort, il jeûne hatta yahtalim. On va voir celui-là.
Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam hatta yahtalim ay aw hatta yablugh.
Dans une riwaya, il est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il jeûne, le garçon ou la fille, hein, quand on dit le ghulam, c'est-à-dire le garçon et la fille, hatta yahlum, jusqu'il a, il devient adulte. Aw hatta yaqil, jusqu'il aura raison, c'est-à-dire adulte.
قال الشيخ العثيمين والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر.
Alors pour connaître une personne qui est devenue adulte qui doit jeûner, pour les gens qui ont leurs enfants, leurs filles, leurs garçons, pour savoir quand il doit jeûner,
الشيخ العثيمين il dit on peut avoir trois signes que le garçon est devenu adulte et qu'il doit jeûner, il doit prier obligatoire et tout ça. Trois signes pour le garçon et quatre pour la fille.
إتمام 15 سنة وإنبات العانة وإنزال المني بشهوة.
Alors les trois pour le garçon c'est d'avoir 15 ans.
Ça c'est une, c'est-à-dire si on ne voit pas des poils ou quoi que ce soit, à 15 ans il est obligé à ce moment-là de jeûner.
وإنبات العانة
donc des pubis, des poils sur ses épaules ou alors sur les pubis. Et c'est le moment qu'il a des poils, à ce moment-là il devient adulte. Même s'il n'en a pas 15 ans. Il peut en avoir 14, 13.
Wa inzal al-mani bi shahwa.
Et quand il y a du sperme qui sort avec plaisir, à ce moment-là, celui-là aussi, il devient adulte. Alors, on a trois ici, c'est-à-dire signe comme quoi le garçon est devenu adulte, c'est d'avoir 15 ans, ou alors d'avoir des poils sur les parties intimes, ou alors en dessous des épaules, celui-là, on appelle aussi adulte, ou alors quand elle arrivait, ou alors il y a du sperme qui est sorti par plaisir. هنا يبدا يصوم ويصلي فرض عليه.
وكذلك اذا كان عنده الشعر على العانه يعني الشعر اللي كيكون فوق الفرج بالنسبه للبنت او الرجل.
وكذلك اخراج المني اي اذا كان المني خرج بشهوه في حلم او في احتكاك ثم شاف يعني اثر المني فهذا كيكون بالغ وجبت عليه وجب عليه الصيام والأركان الإسلام يعني فرض.
وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة.
Et la quatrième pour la fille c'est d'avoir les règles. C'est d'avoir les règles. C'est-à-dire les trois signes concernant le garçon. Et la fille a le quatrième, c'est-à-dire d'avoir les règles. Une fois qu'il a les règles, qu'il a vu les traces des règles, il doit jeûner, même s'il en a 20. C'est à ce moment-là, c'est obligatoire, 9 ans, 10 ans.
Ici aussi, il y a un problème qu'on a cité toujours. Peut-être il y a un problème, donc on en discute. Question donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec une jeune fille, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha. Et on a vu l'histoire qui s'est passée au Maroc avec Cheikh al-Maghraoui, Hafidhahullah, quand on l'a posé sur le verset que Allah Azza wa Jal, il parle donc les femmes que vous pouvez marier, les femmes qui ont les règles, etc. et tout ça. Et que le Maghraoui, il a fait une fatwa là-dedans, mais ce n'est pas une fatwa, c'était répondu sur une question qui a été posée pour le Qasirat de marier avec une fille donc de 9 ans, de 10 ans, etc. et tout ça. Et que lui, il dit oui, c'est permis. Et que ça fait tout à fait un scandale, etc. et tout ça.
Et si vous bien comprendre point de vue, donc, dans le mariage, ça n'a rien à voir avec les règles. C'est-à-dire, on épouse une fille, pas parce qu'il a les règles, on épouse une fille, balera, et le balara ici, c'est quand elle a les signes d'une femme. C'est-à-dire, ici, ça suit le corps. Ça n'a rien à voir avec les poils, ça n'a rien à voir qu'il est arrivé ou qu'il a eu du sperme, ça n'a rien à voir comme quoi qu'il a les règles, ça n'a rien à voir avec ça pour épouser une jeune fille ou une fille qu'il a à l'âge de 9 ans ou quoi que ce soit. Ça, c'est un rapport avec la femme qui a les signes d'une femme complète et qu'il a et qu'il sait, c'est-à-dire qu'il sait la... qu'est-ce que ça veut dire le mariage, il sait qu'est-ce que ça veut dire les rapports, il sait qu'est-ce que ça veut dire l'homme, les responsabilités de mariage. De moment qu'il sait ça, il peut se marier, même s'il n'a pas les règles ou qu'il n'est pas... Parce que beaucoup de gens, ils disent comment épouser une jeune fille qui n'a pas encore les règles, c'est-à-dire qui n'est pas adulte. Et si adulte, point de vue de l'adoration, c'est une chose. Adulte, point de vue de rapport, donc de mariage, c'est autre chose. C'est pour ça... quand on regarde ici, beaucoup de gens se trompent ici. Bon, on a beaucoup de femmes quand on en parle de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est marié avec une fille de quel âge? Il a que de mariage 6 ans. Mais il n'y a pas eu de rapport. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé à la hauteur d'être femme. Femme, c'est-à-dire apte pour les rapports. Apte pour se tenir ou donc de se mettre comme femme et son mari, tout ça. Jusqu'à l'âge de 9 ans. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé cette distance de 3 ans, de 6 ans à 9 ans, c'est qu'il y a une raison. إذن هنايا كنشوفوا أن بعض الناس اللي كيهضروا على قضية البنت يعني ما تقدرش تزوج بها حتى تكون بالغة وكيفاش كما كيقولوا الأعداء الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت وباقي ما كانش عليها الحيض إلى كذا والآية كتهضر على ذلك الشيء. أولا خصنا نعرفوا أن العلاقة بين الزواج الإنسان يتزوج بالبنت الصغيرة ما عندوش علاقة مع أنها بالغة مثلا في القضية نتاع العبادات. فلذلك قضية لكي يعني يثيرها بعض الأعداء الإسلام وهو كيفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها كان عندها 6 سنين وبنى عليها في 9 سنين. هذه النقطة باش نفهموا الفرق بين العبادات بين البنت الصغيرة أنها تعبد الله عز وجل ما تبدأ العبادة إلا تكون بالغة كما قلنا في هذا السن 15 سنة وإلا بالنسبة للشاب كذلك أو علامة الحيض إلى غيره. لكن بالنسبة للزواج ما عنده علاقة أنها تكون بالغة بهذا المفهوم اللي غيفرض عليها ويبدأ يكتب عليها القلم. المهم أنها تكون عندها يعني الجسد ديالها ظهرت عليها يعني الأنوثة وعارفة أنه كتعرف ما معنى الزواج وما معنى الجماع إلى غير ذلك، خلاص صالحة للزواج. إلا أنه كنشوفوا بعض الناس مثلا وفوا سيغتان بيغسون يسترومب بوكو كونت إل في سو جوجمون دونك دو بونسي كو البروفيت صلى الله عليه وسلم إلا إيبوزي إن جون في دونك دو 9 أن a eu des rapports n'avant. Et la majorité des gens, même des musulmans, même des femmes maintenant, parce que c'est des musulmans, ils ne veulent pas penser à ça. Ils trouvent que ça, c'est... Comment ça se fait d'épouser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait l'âge donc de 50 ans, il épouse la fille donc de 9 ans. Et les gens se restent vraiment là, étonné, il trouve même parfois si tu poses la question à un musulman, ce n'est pas le sujet, mais pour savoir c'est quoi le mariage avec une femme adulte ou pas adulte. Il faut bien savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut bien faire la distinction entre 1500 ans et maintenant. Et l'erreur fatale, la fille pour voir ça, il regarde sa fille devant elle, donc de 9 ans. 9 ans, c'est-à-dire le prophète il s'est marié avec une fille de 9 ans comme ça, et il regarde sa fille, et ça c'est une erreur fatale. Une erreur fatale, car tu compares la fille donc de 2008-2009 à la fille de 1400 ans avant. Et ça c'est une erreur fatale. Tu compares une fille donc qu'il vit dans le superflu, c'est-à-dire dans la ville, avec une fille donc de la campagne. Erreur fatale. Tu compares une fille qui vit dans un lieu froid avec une fille qui vit dans un lieu chaud, c'est-à-dire l'épi. Et ça, si tu n'arrives pas à comprendre ces trois choses, tu commettras l'erreur fatale. Alors, premièrement, l'épi est chaud, les femmes elles sont adultes. Quand on parle adulte, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont les marques, les signes d'une femme. Point de vue des poitrines, point de vue d'envie d'avoir des rapports. Dans des pays chauds, ils sont plus avancés qu'un pays froid. C'est pour ça que les médecins ou les gens qui s'occupent de ça dans un pays froid, par exemple, une fille devient adulte à l'âge de 13 ans, 14 ans. Qu'elle devient adulte, c'est-à-dire qu'elle voit les signes. Dans un pays musulman, ou alors un pays, on va dire, chaud, la fille peut avoir les signes, c'est-à-dire les poitrines, à l'âge de 9 ans. Ou parfois même moins, de 8 ans. Et ça, c'est remarqué, c'est vu dans des pays chauds comme ça. C'est pour ça, on trouve aussi, dans un seul pays, ça dépend de la fille à la fille. Tu vas trouver dans une classe, donc deux filles, ils ont le même âge, 13-13. Une, il est femme. Tellement avec sa raison, son aspect physique, elle en a 13. L'autre, sa copine, qui a même 13, il est encore enfant. Pourquoi? Parce que l'autre, il a évolué, point de vue physique, avant que ça. Et en plus, dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut bien comprendre que ce n'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier qui a épousé une jeune fille de 6 ans. Car Aïcha radiallahu anha, elle a été déjà demandée en mariage avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été demandé par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, les ennemis de l'islam, ils ont parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toutes sortes. Majnoun, fou, etc. Mais ils n'ont jamais parlé, quand il s'est marié avec Aïcha, il n'y a pas dans l'histoire, à ce moment-là, des juifs et des chrétiens et des ennemis des mouchriquins, ils n'ont pas fait la remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'occasion de dire, voilà, c'est quoi ça comme prophète, comme ils disent maintenant, Boutros Zakaria et tout ça. Regardez, le prophète, il se marie avec... Pourquoi ils ne l'ont pas fait, eux, à ce moment-là? Parce que c'était normal chez eux. C'était pas le premier. Même si on trouve dans l'évangile, chez les mécréants, on trouve des rois qui avaient 11 ans. On a trouvé aussi le père et l'enfant... Ils ont une différence, l'autre, donc, de 2 ans, 3 ans. Ils sont mariés à 11 ans. Et son fils, il a 10 ans. Alors, on voit bien qu'à ce moment-là, les mécréants, ils n'ont pas fait cette remarque sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était tout à fait normal. Le mariage, les femmes, ils étaient plus adultes. Maintenant, si on revient à nos parents, il y a 50 ans, 60 ans, le mariage, c'était à quel âge? 15 ans, ça va. 15-14 ans. Si on revient 50 ans, 60 ans, si vous posez la question à vos grands-mères, à vos mamans, à quel âge ils sont mariés, vous allez le trouver, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Si on revient un peu avant, 60 ans, 70 ans, ben alors là c'est 11 ans. Alors reviens encore en arrière, à 1500 ans. Au contraire, maintenant si tu regardes des années maintenant 70 jusqu'à maintenant, le mariage de maintenant d'une jeune fille, c'est quel âge? 25, 24, 24, 20, 18, 19, c'est tout juste. Il n'a même pas l'aql, il ne sait même pas encore faire à manger, rien à discuter. 19 ans. Qui a fait ça? C'est la vie où il vit, le contemporain. Au Maroc, il y a un village, il s'appelle Haha. Donc, du côté de l'Atlas, les jeunes filles, quand ils dépassent 18 ans, personne ne la demande. Elle est vieille, fini. Et dans ce village de Haha, de l'Atlas, il y a eu, après 50 ans, deux divorces. 50 ans, deux divorces dans ce village. Ils ne connaissent pas le divorce, ils ne savent pas quoi. Et la fille, il dépasse 18 ans, c'est fou. J'ai un vieux qui va le prendre pour être de 70, 80 ans, ralas. Pourquoi? Parce que... Hein? Alors là, on voit bien que là, l'âge, ça n'a rien à voir comme les gens, ils pensent, la femme, les rats, il doit avoir les règles, etc. et tout ça. Et en plus, là, la fille où il vit. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire, tu prends deux filles dans le même village. Une fille, elle vit superflue. Dort, elle mange tout, etc. Une fille, une pauvre, elle travaille, etc. Ben, celle-là va devenir adulte avant l'autre. Maintenant, si vous prenez un enfant de Gaza, Gaza que vous entendez maintenant. Vous prenez un enfant de Gaza de 14 ans. C'est quoi cet homme de, ce garçon de 14 ans? Vous les voyez parler à la télévision. Il fit la guerre, il va travailler, ramène à manger à la maison, 14 ans. Quand tu lui parles, on dirait que tu parles à nous. Maintenant, si tu prends ce garçon de 14 ans, tu le compares avec quelqu'un de 14 ans d'ici. Palestinien, la même chose, tu le mets ici. Ça n'a rien à voir, c'est deux personnes différentes. Qui a fait que celui-là, il était un mur avant? C'est la situation là où il vit. Alors, la fille de la campagne, encore la même chose. La fille de la campagne à 6 ans, il va chercher, il marche 16 km pour ramener de l'eau sur son dos. Et la fille de la ville, non, ça n'a rien à voir avec ça. Cette fille-là, il devient mûr. Alors, de plus qu'il y aura de superflu, de plus que l'âge va se retarder, de plus qu'il y aura les études, de plus que l'âge va se retarder, ça va arriver à 30 ans, etc. On se marie. Maintenant, on est arrivé presque à 30 ans dans des pays non musulmans, et les musulmans, ils suivent la même chose. Alors, simplement ça, on va fermer la parenthèse ici, c'est-à-dire, baléra dans la religion, oui, il doit avoir ces trois signes. C'est-à-dire, soit il a 15 ans, garçon et fille, soit il a des traces de sperme, soit il a des poils du pubis. Ça, c'est, on appelle, il doit commencer à jeûner. Mais pour le mariage, ça n'a rien à voir, ces signes qu'on vient de citer maintenant. Siyam al-Sabi. Alors, un petit garçon, est-ce qu'il doit jeûner? يعني الصبي واش يصوم ولا لا والصبي وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده عن الصغر ما دام مستطيعا له وقادرا. Alors un garçon qui est jeune, qui n'est pas baligh, est-ce qu'il doit jeûner? Ce n'est pas obligatoire, mais il faut les inciter à jeûner une demi-journée, une journée et ainsi de suite pour l'habituer pour qu'il puisse jeûner. Et ça, ça n'est pas simplement dans le siyam, on le trouve dans la prière, on le trouve aussi dans le jeûne, on le trouve aussi dans les vêtements. Beaucoup de gens se trompent. Il apprend à son fils donc de jeûner, ou peut-être l'apprend à son fils ou à sa fille donc de faire la prière à côté de lui, mais il lui apprend jamais de s'habiller. Tu vois, la fille lui fait encore des vêtements, des mini-jupes. Le garçon lui fait le petit short ici, mais tu lui dis, mais il est petit. Oui, il est petit, mais comment il va s'habituer? Comment il va s'habituer cette fille-là, qu'il a par exemple 7 ans, 8 ans, avec ses mini-jupes, etc. et tout ça, et tout d'un coup, tu vas lui changer. Ça sera difficile pour elle. Il faut lui apprendre à s'habiller, normal. Et encore inimaginable, tu trouves ce genre de maman-là. Il met à sa fille un peu une mini-jupe-là, et quand cette fille-là, il bouge un petit peu, où il est devant, où il y a des gens-là, ramasse tes pieds. C'est toi qui lui as fait un centime de vêtements et puis ramasse tes pieds. Halas, mets-le un vêtement large, un pantalon normal. La même chose pour le garçon, tu le trouves, il le ramène à la mosquée pour prier avec un short là. Mais il est jeune. Non, apprends-lui à porter, à s'habiller normal. Alors ici, on voit bien qu'on apprend aussi au jeune homme, garçon petit, donc d'apprendre à jeûner. Le dalil de ça, يعني الآن, باش تعلم الناس. هنايا كنشوفوا انه الولد الصغير يصوم ولكن مش واجب، وهذه ماشي فقط في الصلاة، هذه واجب في الصلاة وواجب كذلك في الصيام، واجب حتى في اللباس. بعض الناس اللي كيلبسوا لولادهم والبنات ديالهم لباس مقزب معقطع النص نتاع اللباس وكتخليه هكذاك ثم كيكبر، فلذلك كنجبروا الأغلبية ديال البنات اللي ما تستنسوش مع الخمار في الصغر ديالهم كيصعب عليهم يديروا الخمار ملي كيكونوا كبار. عن الربيع أو الربيع الربيعي بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم لعبة من العهن، فإن بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. والحديث رواه البخاري. السيل حديث دو الربيع Et Mouawid, il dit qu'on apprend à nos enfants, on jeûne à Ashura et on apprend à nos enfants de jeûner. Les enfants qui ne sont pas encore adultes, Il leur fait des poupées avec de la laine. Des poupées avec de la laine, comme ça. La laine, sauf. La laine, c'est-à-dire la laine qui est colorée, pas qui est naturelle, c'est-à-dire qui est jaune. Et alors, ils leur font des jouets avec cette laine-là. Et quand l'enfant qui n'a pas mangé presque la demi-journée ou à la fin, il pleure, il veut manger, les mamans leur donnent ce jouet-là, c'est-à-dire ils cachent le jouet, ils ne le donnent pas, parce que si tu lui donnes le départ, il va jouer, il va le jeter, il en a marre, il veut manger. Par contre, ils le cachent, ils mettent ce jouet-là, il attend juste qu'il pleure, il lui donne le jouet, pour finir le journée. Regarde comment il apprend leurs enfants de ce temps-là. C'est-à-dire, il leur donne ce jeu pour finir la journée. Quand il lui donne cette poupée-là, ou ce jeu qu'il lui a fait, automatiquement, le garçon, il est distrait avec ce jouet pour finir le ramadan. On voit bien ici, on apprend à leurs enfants, donc, de jeûner, même si ce n'était pas encore adulte ou obligatoire. Et de nana yakanchufu anna, الصحابة رضوان الله عليهم كتبين أنه كانوا كيعلموا أولادهم باش يصوموا وكانوا كيديروا لهم بعض الألعاب بعض الدميات يعني بالصوف الصوف الملون فكيعلموهم يصوموا كيعطيو لهمش المكلة لكن من كيقرب يعني آخر النهار أو في وسط النهار كيكون الولد مثلا جيعان فكيبدأ يبكي فكيعطيو له ديك اللعبة باش يلهيوه باش يستمر يصوم ويكمل النهار تاع الصيام. من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء. Alors, la catégorie des gens qui peuvent manger mais qui doivent payer ces jours-là, c'est-à-dire de jeûner ces jours qu'ils ont mangé. فالعاجز ليس عليه الصوم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Alors, ceux-là qui n'ont pas la capacité de jeûner, point de vue de maladie ou voyage, sont pas obligés de jeûner, mais qu'ils jeûneront une fois qu'ils sont guéris ou une fois qu'ils sont retour de leur voyage. Allah Azza wa Jalla dit فمن كان منكم مريضا, celui qui est malade, أو على سفر, ou il est en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Alors tu jeûnes à la place de ce jour-là qui était malade des autres jours. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين قسم طارئ وقسم دائم. الشيخ العثيمين ici il dit mais si on suit bien l'incapacité donc de jeûner ça se divise en deux قسم طارئ une capacité qui vient soudain, comme ça, une incapacité donc continuellement. C'est-à-dire une maladie qui peut venir, mais que tu vas guérir. Tu fais médicaments, tu vas guérir. Et une maladie que tu ne vas pas guérir, continuellement. فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله وهو المذكور في الآية فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. Alors dans le verset il dit man kana minkum marida. Ici celui parmi vous qui est malade, le Cheikh Al-Uthaymin parle ici donc de celui qui est malade mais qu'il espère une guérison. Le verset parle de celui-là, il parle pas de celui qui n'espère pas une guérison. Évidemment, on espère toute une guérison au point de vue d'Allah Azza wa Jal, mais là on parle d'une inspiration médicale. C'est-à-dire le médecin il te dit pas de médicaments pour ça. Tu continues comme ça pour ceux-là qui ont l'asthme ou quelque chose, ou la maladie du sucre, etc. Mais Allah Azza wa Jal, il est capable de le guérir. Alors ici, celui, par exemple, qui est malade, mais qu'il y a une guérison, celui-là, il mange, mais il rattrape. Et alors le deuxième cas, qu'ils peuvent manger, mais ils ne peuvent pas rattraper ce jour-là, ils doivent payer. Alors on a la catégorie qui mange, mais rattrape les jours. On a la catégorie qui mange, mais ils ne rattrapent pas les jours. Ils doivent payer chaque jour qu'ils ont mangé. Cela c'est... Il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, yurakhasu al-fitr li Cheikh al-Kabir wal-mar'a al-ajuz wal-marid alladhi la yurja bar'uwa huwa al-madhkur fi qawlihi ta'ala wa 'ala alladhina yutiquunahu fidyatu ta'amu miskin. Surat al-Baqarah. Alors, ceux-là qui peuvent manger et ne pas rattraper ce jour, ils doivent payer chaque jour qu'ils ont mangé, un vieux, vieux, donc de l'âge, qui n'arrive pas à rester sans manger, ni boire. La même chose, le malade, qu'il n'a pas de guérison, une maladie définitive. Et c'est là que c'est venu dans le verset de Surat al-Baqarah, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٌ مِسْكِينٌ. Mais là, le verset, on ne va pas nous autres rentrer là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'explications sur le verset. Parce que le verset dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Ceux-là qui peuvent jeûner. يُطِيقُونَهُ, c'est-à-dire qu'ils peuvent. Mais à ceux-là, s'ils ne jeûnent pas, ils payent chaque jour qu'ils ont mangé. Ce verset-là, on va le voir après par l'explication. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. Les ulama, ils disent ça, c'était au départ. Quand le jeûne n'est pas obligatoire. Parce que le jeûne, le siyam, il est descendu d'abord que ce n'était pas obligatoire. Tu jeûnes, c'est bon. Tu jeûnes pas, tu payes. Ça, c'était la première chose. Après, ça va changer. Ça va devenir obligatoire. Tu jeûnes. Halas, il n'y a pas, donc tu as la santé, tu es en bonne santé, tu dois jeûner. Au début, non. Même si tu as la santé, tu n'es pas malade, etc. Tu n'as pas voulu, tu avais le choix, tu n'as pas voulu jeûner, tu ne jeûnes pas, tu payes. C'est ça le verset qu'il dit. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Il y en a des autres tafsirs, il dit يُطِيقُونَهُ, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas. Mais le verset ne dit pas ceux-là qui ne peuvent pas. Il dit ceux-là qui peuvent, celui-là qui le supporte. حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصوم. ابن عباس il a expliqué ce verset là, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Il dit ce verset là, ça parle de vieux ou la vieille, ceux-là qui ne peuvent pas jeûner. فيطعمان عن كل يوم مسكين والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيه دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنه. Dit Cheikh Al-Uthaymin, mais si on regarde dans le verset, on ne trouve pas que ce verset parle d'un vieux qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à jeûner. Ça ne parle pas d'une vieille. C'est-à-dire, le verset, il n'y a pas marqué vieille, où il ne se porte pas, quelqu'un qui est âgé ne se porte pas de jeûner. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dément en regardant bien dans le verset, que ceux-là qui ont la capacité de jeûner, mais qu'ils n'ont pas jeûné, ils doivent payer, de faire payer chaque jour qu'ils ont mangé. Mais Abdullah ibn Abbas, il prend ce verset-là, que celui-là, qu'ils ont la capacité, qu'ils ne jeûnent pas, ils payent. Il dit ça, le verset concerne le vieux et la vieille qui n'arrivent pas à jeûner. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, mais on ne voit pas comment, c'est-à-dire, ce n'est pas clair dans le verset comme il l'a expliqué, الصحابي لكمبانيو دو بروفيت عبد الله بن عباس رضي الله عنه لان الايه باسكو لو فيرسي في الذين يطيقون الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعملون. Il a ramené le verset complètement pour bien comprendre. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. Ceux-là qui ont la capacité de jeûner mais qui n'ont pas jeûné, ils payent d'honorer un pauvre. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا. Celui qui fait le tatawwa, c'est-à-dire le surrogatoire, فَهُوَ خَيْرٌ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ. Celui qui jeûne, c'est mieux pour lui. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Cheikh ici, وَهَذَا وَاضِحَ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى الصَّوْمِ. Alors ici, le verset parle aux gens qui ont la capacité de jeûner. وَهُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ. Alors ils ont le choix de jeûner ou de payer, car ils ont la capacité de jeûner. C'est-à-dire, le verset parle bien, tu as un choix. Tu veux jeûner, tu jeûnes, tu ne veux pas jeûner, tu payes. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit ce verset, c'était parmi les premiers versets qu'ils ont descendus concernant le jeûne, c'était un choix, ce n'était pas obligatoire. Au départ, ce n'était pas obligatoire de jeûner, c'était un choix. Soit tu jeûnes, soit tu payes. وَإِنْ شَاءُوا أَفْطَرُوا وَأَطْعَمُوا. وَهَذَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَ بْنُ الْأَوْكَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرْ وَيُفْدِي أَوْ يَفْتَدِي حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. Il dit, il y a le hadith Il dit que celui-là, il est descendu d'abord au départ, que c'était un choix, jusqu'il est venu l'autre verset pour abroger ce verset-là, que le jeûne, il est obligatoire, fardu ayn. On va le voir par après, inshallah, bidnil. Lakin, écoutez bien ce que Cheikh Al-Utaymin va dire. Cheikh Al-Utaymin, il a dit au départ, comme quoi Abdullah ibn Abbas, en expliquant le verset, ça ne donne pas, il n'y a pas où il a trouvé le vieux et la vieille. Et que Abdullah ibn Abbas va rajouter encore autre chose. Cheikh Al-Utaymin, il dit, on ne voit pas comment il a expliqué. Mais il revient sur cette parole et il dit, mais attention, qu'Ibn Abbas est le compagnon bien connu. C'est le tourjman de le Coran. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le dua pour lui. Alors, le prophète, s'il fait le dua à quelqu'un, il exerce directement. C'est le prophète, il dit, ya Allah, faites qu'Abdullah ibn Abbas, c'est lui qui comprend le mieux le Coran. Alors, toute la communauté musulmane sait bien qu'Abdullah ibn Abbas, c'est le tourjman de le Coran. C'est lui qui l'explique. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, il dit, mais attention, لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه. دي ما attention. En connaissant bien Abdullah ibn Abbas, qui lui connaît bien l'explication des versets et qu'il comprend bien les versets et qu'il a une grande vue donc de le Coran. لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عادلا للصوم لمن قدر على الصوم إن شاء صام وإن شاء أطعم. ثم نسخ التخير إلى وجوب الصوم عينا فإذا لم يقدر عليه بقي عليه وهو الفدية فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله ويجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. Il dit effectivement que le verset, quand il est descendu, sur quoi? Que deux personnes, une personne, il a la capacité, il a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Mais après, il y a un autre verset qui va descendre, que celui qui a la capacité, la santé, etc., il doit jeûner. Abdullah ibn Abbas, il va conclure dans ce verset-là, que Allah Azza wa Jal, il a fait le choix pour ceux-là qu'ils ont la capacité de jeûner, soit de payer, soit de jeûner. Un autre verset, il dit non, celui-là qui a la capacité, il parle ici avec qui? À celui qui a la capacité, santé, il doit jeûner. Mais alors, celui qui n'a pas la capacité, il fait quoi? Il prend Abdullah ibn Abbas ce verset-là, que celui-là qui n'a pas la capacité et qui ne peut pas rattraper ce jour, il lui reste à pied. Abdullah ibn Abbas, il garde le verset. C'est pour ça qu'on trouverait beaucoup dans les tafasir que le verset est mansour. Abdullah ibn Abbas, il dit qu'il n'est pas mansour. Ce verset, il reste, simplement il a changé d'aspect. Au départ, c'était pour les gens qui ont la capacité, ils ont le choix. Puisque ceux-là qui ont le choix et qui ont la capacité, c'est fini. Il faut maintenant que celui-là a la capacité, il doit jeûner. Mais alors, celui qui n'a pas la capacité, on va le mettre où? Celui qui est malade, définitivement, on va le mettre où? Il dit, Abdullah ibn Abbas, on va le mettre avec ce verset-là. Car il ne sait pas faire autrement, il doit payer. Et c'est comme ça que ça a été venu par après. فَصَارَ الْعَاجِزْ لَا يُرْجَى زَوَالْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِطْعَامِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَ. الثاني إن قيل ما الدليل على وجوب الفدية مع أنه اتقى الله ما استطاع في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. On va voir après encore que Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar adon que la femme qui est enceinte ou qu'il allait, il rentre dans ce verset là. Mais il y a une divergence là-dedans. La femme qui est enceinte, il mange, il ne rattrape pas ces jours-là. La femme qui allait de son fils, il mange, il ne rattrape pas ces jours-là. Il paye. On va voir ça après, quand on va arriver, inshallah, dedans. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, « Ma dalil ala wujub al-fidya ?» Où est-ce qu'il est le dalil? Comme quoi? Que celui qui est malade, une maladie inguérissable, il doit payer. Et Allah Azza wa Jalla dit, « Taqullah ma stata'atum, craignez Allah ce que vous pouvez. » Mais lui, il est malade, ce n'est pas sa faute, il est tombé malade. Pourquoi il doit payer? Il n'a pas la capacité, il mange, il ne jeûne pas, c'est tout.
فالجواب ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصوم يطعمان لكل يوم مسكين وقد استدل على ذلك بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين البقرة والقول هنا صادر من صحابي.
الدليل الدليل سكول عبد الله بن عباس الذي عبد الله بن عباس الذي كسلوي كي أسي أجن ببا jeûner, il est âgé, il ne peut pas. Mais Abdullah ibn Abbas, il dit qu'il doit payer, c'est-à-dire chaque jour qu'il a mangé. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit, rahimahullah, il dit, وَالْقَوْلُ هُنَا صَادِرْ مَنَ الصَّحَابِ. Qui a dit cette parole? C'est un compagnon de prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Faites très attention, c'est très important ça. Ne faites pas comme celui-là qu'ils disent, هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ. Il y a des gens maintenant, ils sont à la mode, des philosophes, des musulmans un peu crampés là. Quand on lui dit le prophète, pas le prophète, parce que le prophète, il respecte encore. Peut-être ils vont venir. Il y en a déjà maintenant. Même le prophète, ils se trompent, etc. On discute à sa parole et tout ça. Alors, on va parler de ces gens-là qui parlent des compagnons. Ils disent que les compagnons sont marsomènes, intouchables, ils ne peuvent pas commettre d'erreur, oublier. Oui, si, ils vont oublier, etc. Même de transmettre un message, ils peuvent se tromper. Il dit alors, ce qu'eux comprennent, hommes, c'est des hommes, nous sommes des hommes, on a le cerveau, Allah, il nous a donné le cerveau. Pourquoi lui, le compagnon, il a dit, nous, on va le suivre. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, attention. La parole, ça vient d'un compagnon de prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, on sait qu'il y a une divergence entre l'ulama. La parole de compagnon de prophète, est-ce que c'est une preuve agrément hujja? C'est-à-dire, ça devient wajib. Quand on entend le prophète, un compagnon, il dit quelque chose, c'est-à-dire ce que vient de dire le compagnon ici dans cette parole, dans fatwa, ça devient obligatoire. Certains ulama, ils disent non, ce n'est pas obligatoire. Il y en a qui disent obligatoire. لَكِنَّهُ هُنَا قَوْلُ صَحَابِ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ وَإِذَا كَانَ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَا تَفْسِيرِ الصَّحَابِ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. Il dit, mais si Abdullah ibn Abbas, il a parlé de quoi? Il a parlé de tafsir, une explication d'un verset. Et la majorité des ulama, il dit, le tafsir, concernant le compagnon, sa parole passe avant tout. Car ce sera eux descendait le Coran. Alors, dans le tafsir, la parole de compagnon passe avant tout. وإن كان هذا القول ضعيفا ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره. Il dit, même on peut dire que cette parole, le tafsir d'un compagnon, c'est-à-dire qu'on le prend comme un argument, comme une preuve, comme un hadith, etc. Il dit, ça se discute là-dedans. Il dit, mais il ne reste quand même une chose. La parole d'un compagnon dans le tafsir, ça passe avant la parole de quelqu'un d'autre. À n'importe qui, nous autres ici, tu fais le tafsir, mais il y a un tafsir d'un compagnon, son tafsir passe avant toi. Taïb, normalement ça, on va rentrer donc dans la prochaine dars, Inch'Allah. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai un chargement. Au point de vue, on rentre maintenant Bima yathbut al-shahr. Et là, c'est un autre charmila, un autre shlada. Comment on va dire que le jeûne commence ou il ne commence pas? On va jeûner maintenant ou on ne jeûne pas? C'est demain, c'est avec ça, avec quoi? Le délire comme quoi le ramadan commence ou il s'arrête? Je crois que je vais le laisser pour le commencer dans le dars qui suit, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.